Donc, je suis en compagnie d'Emmanuel Grondin et de Jean-Sébastien Cloutier, associé chez Norton Rose Fulbright pour le troisième épisode de la saison 7 du podcast Droit de parole. Nous allons discuter aujourd'hui du rôle de l'avocat dans les grandes transactions d'affaires, qu'il s'agisse de fusion et acquisition, d'opérations publiques ou de mandats internationaux. Donc, messieurs, je vous laisserai vous présenter. Je ne sais pas si Emmanuel, tu veux commencer.
Oui, parfait. Donc, Emmanuel Grondin, associé en droit des affaires chez Norton Rose Fulbright. J'ai une pratique de fusion-acquisition privée et publique, là, ce qui est assez... On pourra revenir là-dessus, mais je fais les deux. Souvent, on fait soit l'un, soit l'autre. Et puis, ça fait... dans le fond, j'ai travaillé au bureau là, depuis 15 ans. Donc, mon seul emploi en droit, c'était chez Norton Rose Fulbright. Parfait.
Jean-Sébastien Cloutier, associé en droit du travail. Je suis responsable du recrutement chez Norton depuis longtemps, Emmanuel. Depuis combien de temps? 9 ou 10 ans à peu près. Je fais du droit du travail depuis toujours. Je suis au bureau, ça fait à peu près 16 ans. Je pratique le droit depuis 22-23 ans maintenant.
C'est récent.
Aujourd'hui, on parle pas de moi. Hein. Aujourd'hui, oui. Moi, je suis un peu le fou du roi, comme Emmanuel disait tantôt. Je suis là pour peut-être t'aider à interviewer notre ami Emmanuel. Parce qu'aujourd'hui,
prenant en considération que tu connais beaucoup son parcours.
Parce que je connais son parcours, c'est un ami aussi. Donc, tu sais, je vais peut-être pouvoir aller dans des zones où toi,
que tu connais moins.
Tu connais moins. Alors, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir connaître un petit peu plus Emmanuel, son genre de pratique qui est, atypique, vraiment particulière, un avocat qui a beaucoup de succès au bureau. Puis je pense que c'est intéressant pour tout le monde de voir, de constater ce qui est possible de faire chez Norton Rose ou ailleurs. Mais dans la pratique du droit des affaires, Emmanuel a une pratique qui est exceptionnelle, donc je pense que ça devrait être intéressant de jaser avec lui aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup à vous deux de vous être présentés. Donc, on va revenir à toi, Emmanuel. Ouais. Je vais te laisser te présenter. Tu pars d'où que tu penses que c'est nécessaire.
Bien, écoute, donc, je viens de Québec d'abord. Oui. Ça, c'est important de partir de là. Mes parents sont deux profs de philo à l'université et au cégep. Donc, j'ai grandi, disons, dans un milieu où la culture est importante, les discussions sont importantes. Donc, dans un milieu où s'ostiner, tu sais, les philosophes, quand même, on pense que les avocats
s'ostinent. Non, ils ont de l'argumentation.
C'est un peu leur sport de prédilection. Donc, j'ai grandi là-dedans. J'ai un frère plus vieux qui a commencé son droit un an et demi. Il y a un an et demi de plus que moi, mais deux ans de plus à l'école parce que... On l'a commencé plutôt à l'école et donc lui a fait son droit avant moi. Donc, j'ai toujours suivi un petit peu son parcours.
Okay.
Et puis, écoute, j'étais honnêtement en droit par, je me souviens même plus pourquoi. Là.
Tu sais, un certain intérêt.
Moi, je pourrais dire que j'ai toujours voulu ou tout ça, mais honnêtement, je suis pas clair pourquoi. Okay. Là, tu sais, c'était cotère, je sais pas. Là. Tu sais, j'ai fait mes...
Ton père, peut-être? Peut-être tes parents, ton nom?
Honnêtement, j'ai vraiment aucun souvenir de pourquoi j'étais en droit. Là. C'était vraiment un réflexe. Je pense que je voulais être diplomate ou quelque chose comme ça. Là, tu sais.
Ça a bien à donner, finalement. Mais...
Ça a bien à donner. J'ai fait mon bac à Laval. Donc, mon bac, là, tu sais, en trois ans, je faisais de l'athlétisme dans le club Rougeard. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de sport là, dans ma vie. Là. Moi, un esprit sain dans un corps sain, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Là. Tu sais, je sais que souvent, les gens regardent les avocats en pratique privée puis se disent que c'est des gens qui sacrifient leur santé au profit d'eux. Mais au contraire, là, tu sais, moi, ça fait
plus 20 ans. Un bon équilibre.
Ça fait depuis 20 ans que je cours en moyenne 10 km par jour. Là. Donc, tu sais, j'ai vraiment pas senti ce sacrifice-là, pas eu besoin de le faire ou autrement. Là, je pense que c'est une question de volonté. Donc, j'ai fait ça. Puis ensuite, j'ai fait ma common law à Dalhousie.
Oui.
Mon épouse vient des Maritimes, donc on est ensemble là, depuis qu'on a 19 ans. Donc, j'ai 40 aujourd'hui, là, donc ça fait 20 ans. Donc, on avait été faire notre common law ensemble à Dal, qui a été quand même un beau parcours parce que c'était intéressant comparativement à Laval, parce que je trouvais qu'à Laval, les gens étaient jeunes. Oui. Alors qu'à Dal, les gens, ils ont déjà un bac.
Un bac,
oui. Ça fait un niveau de cours différent. Tu sais, les gens, ils interagissent. Tout le monde a 23 ans,
pas 20 ans. Moins gêné aussi, sûrement.
C'était quand même, tu sais, c'est ça. C'est une belle expérience pour ça. Tu sais, est-ce que c'est utile dans mon quotidien à moitié, là, tu sais, pour être franc? Là, je suis peut-être devenu plus mature parce que j'étais un an plus vieux quand j'ai commencé. Puis ensuite, j'ai fait mon barreau là, en 2008 là, à l'École du barreau à Québec.
OK.
Donc, ça, c'est pas un peu mon parcours académique. Oui. Donc, j'étais chez moi. J'avais absolument rien à faire. J'avais passé mon examen du barreau. Fait qu'un peu comme quand je savais pas pourquoi je suis allé en droit.
Tu n'avais pas ton stage avant.
Mais là, c'est ça, Emmanuel. Tu es rendu au barreau, tu n'as pas fait la course au stage.
Rien. Moi, je trouvais ça, pour être franc, je trouvais ça trop laid, là, les affiches, faites votre droit, des simulations d'entrevues. Moi, ça me.
Ça t'attirait pas, mais tu étais dans l'athlétisme beaucoup aussi.
C'est ça.
Tu étais plus dans ton monde, c'est ça aussi, de sport.
Moi, j'allais à l'école, je m'assoyais en jogging, je courais, je voyais mes amis. Tu sais, l'école, c'était une petite portion de mon quotidien, dans le fond.
Oui.
Et puis, c'est ça. Fait que j'ai pas été immédiatement attiré par ça. J'ai pas senti le besoin de faire la course au stage. Encore une fois, je trouve ça me concernait pas du tout. Là. Les gens parlaient de ça, puis ça me passait 100 pieds au-dessus de la tête. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. T'sais, j'avais 22 ans.
Oui.
Mais tu savais c'était quoi? Tu savais que ça existait? Tu savais que la course existait? Simplement, tu dis, moi, ça m'intéressait pas.
Zéro. Hein. Je me sentais pas quelqu'un qui s'en allait sur le marché du travail, pas en tout. J'ai toujours trouvé que les cours devenaient de plus en plus intéressants, tant en droit. Oui. C'est comme au secondaire. Plus tu avances, plus tu as hâte de faire les cours. Il y avait un genre de crescendo d'intérêt, tu sais. Mais à part de ça, fait que je le sentais pas. Puis fait que ma blonde, elle, est un an en bas de moi.
Oui.
Donc, elle s'est mise à faire la course au stage parce qu'elle est plus à son affaire que moi. Puis, donc, tu sais, j'ai fait mon barreau. Moi, c'était en 4 mois. Fait que j'ai passé le barreau en décembre.
OK.
Et puis.
Elle a commencé ses cours.
Ouais, elle faisait des activités de raquettes avec des cabinets d'avocats. Là, ça fait.
Elle allait au cocktail, les wine meetings.
Ouais, c'est ça. Puis moi, j'étais chez nous, puis je faisais absolument rien. Là. Je venais de passer, puis c'était. Puis là, mon père, il y avait un voisin qui était avocat. Puis il m'a dit, ça me ferait que tu fasses ton barreau, là, ton stage, c'est important. Ouais. Tu sais, j'avais fait de l'école, puis écoute, j'étais vraiment pas là. Fait que là, j'ai copié certaines des lettres de ma blonde. En me trompant dans une des adresses. Donc, Ogilvie-Renault, qui était l'ancien nom de Norton Rose.
Okay.
J'ai copié, puis j'ai mis l'adresse de Montréal.
Ah, okay.
Puis, j'avais pas des mauvaises notes à l'école. Fait que j'ai reçu un appel de ces gens-là. J'avais appliqué au ministère de la Justice. Puis ça, c'était la job, là, je la voulais. Là. C'était l'affaire de plaider des chartes.
Okay.
Puis, pour te donner une idée, là, tu vas dire, il est vraiment niaiseux, là, mais je m'en vais faire l'entrevue, puis il me dit, c'est la meilleure entrevue que j'ai jamais vue, tu sais, j'avais tous les jugements, tout ça, je le voulais vraiment. Prêt. Ouais.
Au ministère, ça.
Mais, encore une fois, comme un niaiseux, ils me disent, ils m'offrent la job, puis là, je la prends, ils me rappellent, puis ils disent, ah, ben, t'as pas fait l'examen d'entrée à fonction publique, tu sais. Puis ça, c'était évident qu'il fallait que tu le fasses. Ah, tout le monde l'a fait. Ouais. Puis j'étais comme. Tu sais, en tout cas.
Ça, c'était un exemple de mettons, t'étais pas trop à ton enfant.
Pas là, pas en tout, là, tu sais. Fait que là.
On espère que ça a changé depuis.
Bon, écoute, pour les clients qui. pour les clients qui écoutent, oui, je lis les documents. Non, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Donc là, pour te donner un exemple, fait que j'avais appliqué à 4-5 places en copiant les lettres de ma blonde. Puis j'ai eu un appel de chez Ogilvy Renault à Montréal. Les gens qui sont maintenant des amis, mentors, Eric Stevens et Stephen Kelly.
Mais dans l'objectif de t'en aller à Montréal, Manu?
Pas du tout.
C'est une erreur.
C'est une erreur.
Ton objectif, c'était d'être à Québec.
Ben moi, je fais du jogging. C'est beau, Québec.
C'est du jogging de Québec à Montréal, ça va bien se faire.
Hein? C'est ça. Non, mais tu sais, je sentais pas. Ben mon père, tu sais, mes parents, c'est un divorce Québec-Montréal. Ils ont divorcé quand j'étais jeune. Fait que mon père, il est prof à l'Université de Montréal. Fait que j'avais quand même, tu sais, Montréal, c'est pas une ville étrangère pour moi. J'ai passé beaucoup de temps là.
Même l'opportunité d'être à Montréal, si ça a donné aussi.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, pas plus qu'il faut. Ça fait que là, je m'en vais là, je m'en vais à Montréal, prendre l'entrevue, puis ça va bien. Tu sais, honnêtement, l'entrevue a duré 5 minutes. Puis parce que Jean-Sébastien, tu le sais, quand tu es hors course au stage, il n'y a pas de règles. Ça fait que les gars, ils se regardent après 5 minutes, il y a une question en anglais.
Ils savent.
Puis ils disent, OK, tu sais, ils se regardent les deux gars.
Il y a moins de règles.
On n'est pas. Il est hors course, tu vois. Tu veux-tu une job? Fait que là, mon père m'avait dit, si tu as fait une job, tu prends ça en délibéré. Fait que j'ai dit, oh, ben, faut que je considère mes options, ta.
Ce qui était dans le temps, il n'y en avait pas tant d'options.
On sait qu'il n'y en a pas. Il n'y en avait pas d'options.
Non, puis il payait.
Ça, le ministère.
Il payait un sel. Je pense qu'il payait un sel quand tu es stagiaire, puis il payait ton barreau, qui était à l'époque 3 500$. Je pense que c'était ça le deal du bureau. Ouais. BCF donnait un laptop, ça c'était le Nec Plus Ultra, là, des, à l'époque, là, c'est n'importe quoi, là, la surenchère. Fait que là, le lendemain, mon père, il dit, ah ben négocie quelque chose. Fait que je dis, parfait. Fait que là, j'ai dit,
le philosophe.
Ouais, aucun s'y écoute, c'est excellent philosophie, mais pour ça. Fait que là, j'arrive, puis je dis, ben écoute, j'aurais besoin d'argent pour m'acheter des soutes.
Fait que là. Attends.
T'as jamais
raconté
ça?
Non, tu m'as jamais raconté ça.
Je les re-rencontre le lendemain. Je dis, je suis prêt à prendre l'offre, mais Vous m'avez pas payé de barreau. Je l'ai payé moi-même. Je suis pas dans la course, mais là, il faut que je m'achète des sous, tout ça. Puis là, Steven.
Tu voulais pas le téléphone?
Ben, il donnait seulement quand t'es stagiaire, puis je voulais faire une maîtrise en Europe. Puis ça, je leur avais pas dit au moment de. Tu sais, que j'appliquais pour ça quand même. Fait que là, fait qu'ils ont accepté. Ils ont dit, c'est bon, on va donner 5 000 piastres.
Là, t'étais conscient.
J'ai acheté 1200 piastres.
On sent qu'on va se faire négocier des sous à partir de maintenant, tu sais.
Alors, on a dit oui à ça. On peut couper.
On a dit oui.
Non, mais attends, ils n'ont pas payé mon barreau.
OK, voilà. Ils m'ont donné quand même 5 000 piastres de sous.
Ouais, puis t'as pas dit que ça a coûté 3 500 dans le temps, le barreau?
Ils m'ont donné 5 000 piastres, puis j'ai acheté 3 sous au Bovet, 1200. Là. Fait que je sais pas trop ce que j'ai fait avec la différence. Mais ça, pour. C'est un peu n'importe quoi, là. Mais c'est ça. C'est ça mon parcours. Fait que j'ai pas fait la course au stage.
Ben, c'est intéressant de savoir que c'est ça, c'est possible de.
Ben, j'étais pas tant appliqué dans toutes ces choses-là. Tu sais, j'étais pas tant. Tu sais, maintenant, c'est super by the book. Oui. Les lettres se ressemblent. Tu sais, je n'ai lu l'an passé, là, des lettres de présentation.
C'est plus formaté un petit peu.
Tu sais, le trois quarts commence par c'est avec enthousiasme que. Là. Tu sais, je veux dire, ça, à un moment donné, c'est comme. C'était très régimenté. Là. Fait que moi, j'étais un petit peu off-branch.
OK.
Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je suis rentré au cabinet comme ça. Puis là, après ça, ben, je leur ai demandé un break d'un an pour faire une maîtrise en Europe. Donc, je voulais faire du droit international. Comme tout le monde, j'imagine, qui écoute au bac, avant de me rendre compte que ben, le droit international, c'est bien de valeur, là, mais ça, c'est d'application très limitée, puis on y reviendra. Là, aujourd'hui, j'en fais du droit international. Là, c'est juste que c'est pas l'ONU, le droit international.
Mais c'est relié à ce que tu fais, mais c'est pas juste ça.
Mais as-tu fait ta maîtrise, finalement?
Oui, je l'ai fait. Ouais, j'ai fait un an à Genève.
À Genève?
J'ai fait un an à Genève. Belle année.
Ouais.
Puis après ça, je suis revenu. Puis mon épouse, elle était encore chez l'Anglois. Là, fait elle a demandé une transition.
Transfert.
Elle a demandé un transfert au bureau de Montréal. Donc là, on a fait 15 ans au bureau de Montréal. Et on a eu 3 enfants. Puis là, on est revenu il y a 3 ans à Québec.
OK.
Ouais.
OK. C'est ça, en ayant comme bureau, un bureau à Montréal puis un bureau à Québec, ça s'est bien fait, juste la transition entre les deux. Ouais.
Absolument.
OK.
Absolument. Il y a pas de... c'est le même cabinet, nous autres. Là. Fait que c'est pas c'est les mêmes gens, la même culture.
La même gang, tout ça. Mais qu'est-ce que... Puis on arrivera peut-être dans ta pratique, pas peut-être, mais tu vas nous parler de ta pratique dans quelques minutes. Mais qu'est-ce qui a motivé le retour à Québec, Emmanuel?
Ben, la qualité de vie, principalement. Là, on avait... nous, on habitait dans un deuxième étage.
OK.
Notre voisin au rez-de-chaussée, c'était Paul Piché, le chanteur, pour tout te dire. Il était temps d'acheter une maison. T'sais, on avait 3 enfants, puis on avait une espèce d'appart.
Oui.
Pas d'étudiants, là, mais on avait un appart. Là, fait qu'on avait 3 enfants, c'était le temps d'acheter une maison. 2021, les prix, c'était fou, tout ça. Fait que là, c'était voir, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on habite? Mon épouse, elle vient de la campagne, au Nouveau-Brunswick. Okay. Fait qu'on se demandait où est-ce qu'on pourrait... on l'a vraiment fait pour nos enfants.
Ouais.
On sentait vraiment que pour nos enfants, c'était une ville exceptionnelle pour les élever, Québec. Okay. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça, tout en gardant notre pratique, nationale.
Fait que ça se concilie bien, là, ensemble, justement, le fait de...
Oui, absolument. Ouais. Là, écoute,
autrement dit, ce que tu dis, c'est que tu es revenu à Québec sans rien sacrifier au niveau professionnel. C'est un peu ça, là. Parce
absolument.
Que,
mais moi, j'avais fait la plupart des... J'avais fait beaucoup des grosses transactions de la ville de Québec. Donc, j'avais quand même un brand dans la ville de Québec. Là, j'ai fait l'appel public à l'épargne de Coveo. J'ai fait les grosses privatisations de la ville de Québec là, depuis plusieurs années. Donc, j'avais quand même un noyau de clients aussi à Québec qui venaient. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier, Montréal, il y a 4 millions de personnes. Québec, c'est quasiment un. Là. Fait que si tu as une bonne part de marché à Québec, tu peux avoir des parts. Mm. À Montréal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'avocats d'affaires au prorata de la population que Québec.
Est-ce que les clients sont plus à Montréal qu'à Québec?
Ben, il y en a partout, des clients. Honnêtement, là, les clients sont dans notre téléphone. Là. Il y a pas, un client, c'est un client. Qu'il soit, peu importe.
Puis honnêtement, aujourd'hui, Emmanuel, aujourd'hui, après la COVID, là, les choses ont changé beaucoup. Là,
oui, que tu pratiques
De Québec, de Montréal, peu importe où, honnêtement,
ça fait
bien.
Il n'y a aucune différence. Là. C'est plus un enjeu, ça. C'est plus vrai, ça. Cette barrière géographique-là est plus ce qu'elle a déjà été. Puis, dans ta pratique, tu en es une preuve frappante. Là.
Ouais. Non, non, moi, il n'y a personne. Tu sais, je veux dire, il y a du monde à San Francisco qui font 2h30 de voiture pour aller au travail le matin.
Oui.
Tu sais, je veux dire, ça fait qu'aller à Montréal, c'est ça. Je veux dire, c'est pas de pire. Je veux dire, au pire, c'est un beau moment. Tu écoutes des podcasts, là, peut-être celui-là ou pas.
C'est ça.
Mais tu sais, je veux dire, tu te promènes, puis tu sais, c'est pas, c'est vraiment pas une barrière à quoi que ce soit là, de faire les deux villes. Mais je me définis pas par une ville, tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, ouais. C'est pas.
Non, parce que c'est tu te déplaces quand même beaucoup aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, des clients, il y en a partout. Là. Tu sais, c'est pas juste Québec, c'est pas juste Montréal. Ça peut être Toronto, ça peut être New York, ça peut être l'Europe. Fait que, tu sais, il n'y a pas de temps de... C'est ça. Tu sais, on a vraiment fait ce choix-là pour nos enfants, tu sais, notre vie de famille. Puis notre vie de famille va très bien. Nos enfants vont très bien. La petite école, ben oui. Le quartier est le fun.
Puis tu viens d'ici aussi.
Je viens d'ici.
Fait que tu reviens aux sources.
C'est ça. C'est ça. Tu sais, puis la vie est belle. Là, tu sais.
J'aimerais comprendre ta pratique davantage, Manu. Tu sais, tu dis, là, tu sais, moi, Québec, Montréal, mes clients, si on a un téléphone, ouais. Tu sais, tu fais quoi? Ouais. C'est quoi ta pratique? Puis surtout, comment tu as commencé? Tu sais, ouais. Comment ça a commencé, tout ça, là, au bureau, avec qui, là, tu sais?
Puis mettons, bien vulgarisé aussi pour ceux qui nous écoutent.
Ben oui, absolument.
Ben, donc, dans le fond, moi, je fais du droit des affaires, à la base. Fait que c'est les questions corporatives qu'une compagnie a. Quand ils viennent dans un cabinet comme le nôtre pour l'expertise, souvent, c'est pour les choses les plus importantes qu'elles font. Les choses les plus importantes qu'elles font, ce sont des fusions et acquisitions. Parce que ça, c'est ce qui va transformer une compagnie. Donc, ils viennent nous voir pour ce qui est une fusion et acquisition. Comment ça a commencé? Nous, on a le privilège dans notre bureau d'avoir une base de clients exceptionnelle, puis un partnership dans lequel les gens ne sont pas jaloux. Dans le fond, on n'est pas... Tu sais, il y a des cabinets, puis je ne veux pas comparer, là, mais il y a des cabinets où c'est très territorial. T'sais. Un associé a le client, puis il travaille dans son équipe, puis c'est un vase. Nous, on a tellement de clients que les associés ne sont pas jaloux. T'sais, c'est pas comme c'est mon client à moi. T'sais, moi, mon client, c'est son client, mm-hmm. Agent Seb. C'est le client de n'importe qui ici. C'est un client du cabinet.
Du cabinet, oui.
Fait ça. Que j'ai eu la chance, tôt dans ma carrière, d'être pris sous l'épaule d'un dénommé Paul Raymond, qui est un gros associé chez nous. Et lui a une grosse, grosse base de clients. Puis c'est lui qui m'a vraiment mis dans certaines relations très tôt. Et comme il a énormément de succès, il jalousait pas, lui. Puis j'ai un bon écart d'âge avec lui, tu sais, il a 62, fait que j'ai 40. Fait que, tu sais, il jalousait pas le fait de m'amener dans un meeting. Fait que très tôt dans ma carrière, à 5 ans, 6 ans,
exposé.
Je pouvais rencontrer, tu sais, des présidents des plus grosses entreprises du Québec, des ministres. Tu sais, fait que tu vas là, tu sais, t'as 29 ans, 30 ans. Mm. Fait que très tôt, j'ai développé la capacité de parler avec ces gens-là, d'interagir avec ces gens-là. Puis ça, c'est parce que le cabinet m'a donné l'opportunité, dans le fond, parce qu'on n'est pas... C'est ça, on n'est pas des hoggers de clients puis des petites affaires défensives puis tout ça. Nous autres, le client, il est là pour le cabinet, on lui donne la meilleure équipe puis tu prends les opportunités que tu as puis tu les extrapoles ensuite.
Mais le rôle du mentor est important aussi là-dedans parce que, tu sais, ta rencontre avec Paul a été probablement, toi ou ton partnership avec Paul a été important dans ta carrière.
Ouais, ben, il a été consacré au Benny Florentine. Paul était un personnage. Mais oui, absolument. T'sais, c'est sûr que on a une relation particulière, mais tu sais, il n'en demeure pas moins qu'il y a plusieurs gens qui l'ont. Mais oui, ouais. Mais tu sais, au-delà de l'individu puis du mentorat qui est extrêmement important. Mentorat, c'est un terme, mais nous, on aime aussi le terme sponsorship. Parce ouais. que mentorat, c'est prendre quelqu'un puis aller luncher.
Puis l'avoir sous son aile, moins
cher. Sponsorship, c'est t'aider dans ta carrière. Okay. Parce que le but dans un cabinet d'avocat, c'est que c'est une roue qui tourne, un cabinet d'avocat. Fait que
ouais.
faut toujours que la roue, elle tourne comme du monde, parce que ça appartient à tout le monde puis à personne.
Mm-hmm.
Parce que le cabinet, on ne le vend pas à la fin des autres. On rentre. Puis, il faut tout le temps que tu t'occupes du cabinet pour la génération ouais. d'après. C'est comme un genre de devoir fiduciaire que ça exact. Roule pour le futur. Fait que ça, c'est particulier.
Puis est-ce que, mettons, justement, tu fais, on dira pas du mentorat, mais du sponsor?
Oui, absolument. Là,
t'en fais avec des plus jeunes?
Oui, bien, oui, ouais, du sponsorship. Là, tu sais, moi, je m'efforce, puis là, tu sais, je suis sûr que les gens vont le reconnaître. Là, je m'efforce de faire ce qu'on a fait pour moi. C'est-à-dire okay. que... Moi, il y a quelqu'un qui m'amenait dans tous les meetings, qui me donnait des relations clients, qui me mettait dans des équipes clients très claires.
Oui.
Je fais ça avec plusieurs personnes, moi okay. aussi, maintenant. Je m'assure que... Oui, parce qu'au final, c'est un sport d'équipe. T'sais, nous autres, le but, là, nous, on aime gagner comme cabinet d'avocat. Gagner, c'est quoi? C'est faire plein de mandats. Puis pour avoir plein de mandats, si t'es tout seul...
Il faut que
l'équipe soit dans le marché. Ouais. Fait qu'il faut que tu t'empowers ton équipe pour aller dans le marché puis être présent. Parce que si on veut, mettons, avoir, je ne sais pas, le 50 % des transactions, parce que quand tu fais une transaction, il y a toujours au minimum deux parties. Tu sais, tu as un acheteur et un vendeur. Oui. Des fois, il y a d'autres rôles, un actionnaire, un créancier, tout ça. Bien, il faut absolument que tu donnes l'opportunité aux gens. De participer à ça. Puis, pour avoir, mettons, 50 % des deals au Québec ou 40 % peu importe notre part de marché, là, dans les grosses transactions, bien, disons qu'il y a 600 compagnies intéressantes pour nous, bien,
ça se fait pas tout seul.
Ouais. Non, ça se fait pas tout seul. Fait qu'il faut que ton brand soit là, faut que l'équipe soit dans le marché. Fait qu'il faut que tu mettes tes lignes à l'eau partout. Parce que nous, ce qui est important, c'est une phrase de mon mentor Paul que j'adore, là, c'est le dossier le plus important, c'est pas celui que tu fais, c'est le prochain.
C'est le prochain.
Il faut que tu trouves le prochain. Puis c'est ça qui est particulier de notre job à nous, c'est qu'on n'est pas... Quand tu as un litige, ça dure 3 ans. Puis là, tu travailles là-dessus sur 3 ans. Puis si, nous autres, un dossier, ça peut durer 3 à 4 mois. Mais une fois qu'il est fait, il est fini. Là.
Mais c'est ça, ça m'intrigue... De la manière que tu l'expliques, tu es vraiment en train de me dire que tu as une fonction un petit peu de vendeur. Dans un sens.
Absolument.
Comment ça se passe à ce niveau-là?
Je vais te le dire, tu sais. La vente, c'est probablement la chose que les gens font le plus. Tu sais, tu te rends compte là, que plus tu es bon dans ton emploi, plus ton emploi, c'est de la vente à tout niveau. Tu sais, peut-être pas pour un médecin, là, mais mettons un président d'entreprise. Là. C'est un vendeur. Ça vend ses actionnaires, ça vend. C'est plus tu progresses, plus la vente est importante. Puis la vente, c'est quelque chose qui est souvent dénigré. Ah, tu sais, vendeur de tapis, vendeur de balayeuse. Moi, je vends un produit qui est exceptionnel parce que c'est des relations de confiance, c'est d'être dans l'inner circle des gens, de devenir un conseiller privilégié, stratégique. Fait que c'est un super produit qu'on a. T'sais, puis le produit, c'est nous-mêmes à certains égards. T'sais, c'est le cabinet puis son goodwill. Mais oui, on est vendeur. Mais moi, je te dirais, dans ce que moi, je fais au quotidien, la chose la plus gratifiante, là, c'est de rentrer le dossier. C'est pas de le faire.
Puis ça, comment tu rentres le dossier?
Parce que vous êtes plusieurs à le chasser, ce dossier-là. Non, mais c'est ça.
Quand je reçois un appel de quelqu'un qui dit « c'est toi que je prends », ça veut dire « c'est à toi que je fais confiance pour l'avenir de ma compagnie ».
Mais ça fait longtemps que tu travailles sur le fait d'avoir
des fois dossiers. Oui, des fois non. Là, tu sais, ça rentre de toutes les façons possibles, les dossiers. Mais c'est la chose la plus gratifiante. C'est surprenant parce que, tu sais, je veux dire, quand j'avais 20 ans, j'aurais été d'un cynisme... C'est absolument débridé sur ce que c'est, puis être un vendeur de ci, puis de ta, ta, ta. Mais la réalité, c'est que c'est quand même cool parce qu'on est à la fois des avocats et une entreprise.
Mm-hmm.
C'est le fun d'être une entreprise. Fait que nous autres, on est une entreprise, on veut gagner, on veut des parts de marché, on veut faire les beaux deals, on veut avoir les beaux rôles. T'sais, ça fait qu'on n'est pas juste des professeurs tournesol dans notre coin qui font du papier. T'sais. On est vraiment les deux en même temps. Fait qu'on a nous-mêmes notre propre stratégie d'affaires. Fait que c'est quand même très, très intéressant. Là. C'est complexe comme job. Il faut que tu sois là pour les jeunes, il faut que tu les motives, il faut que ton équipe se tienne, il faut que tu rentres le dossier, il faut que la business roule. Il y a vraiment beaucoup de facettes.
C'est multifactoriel.
Moi, être avocat pratique privée qui est cool.
OK. Fait que ça bouge beaucoup. C'est pas... dans le fond, là, toi, une journée dans ton quotidien, est-ce que tu en as une qui est spécifique ou ça change justement tout le temps?
Ça change tout le temps. Ben, tu sais, mettons, une semaine peut se ressembler.
Ouais. Voudrais-tu me donner un exemple?
Oui. Ben, d'abord, je cours tous les matins. Ça, c'est l'évidence. Tu sais, je cours les matins avant que les enfants se lèvent.
Okay.
Je dois le dire, là, c'est plus ma blonde qui est héroïque parce qu'elle a cours de 5 à 6, puis moi, de 6 à 7.
Qui est quand même.
Oui. Fait qu'après ça, on amène les enfants. Tu sais, on fait le déjeuner avec les enfants, on amène les enfants à l'école, tout ça. Puis généralement, j'ai des appels. J'ai beaucoup d'Européens, des clients européens. Fait qu'eux autres, ma journée à part, là, j'ai plusieurs courriels quand je me lève des Européens qui sont déjà levés. Fait que je gère ça un petit peu. Puis quand j'arrive au travail, ben, généralement, je les rencontre. Puis dans une semaine, j'ai, mettons, 3 lunchs, 2 soupers avec des clients, généralement, pour continuer de bâtir mes relations avec eux, tout ça, tu sais, rencontrer les gens, savoir ce qui se passe dans l'entreprise, etc. Puis sinon, ben, c'est vraiment des rencontres. Tu sais, moi, je lis les papiers, mais tu sais, je lis les portions importantes. Dans le fond, les équipes vont arriver avec des questions dans les dossiers. Mais sinon, moi, je peux travailler une dizaine de dossiers en même temps, généralement. Okay. Ça peut aller jusqu'à 15. Mais tu sais, fait que là, il y a énormément de courriels. C'est
ce qui est important, justement.
Les équipes sont tellement bonnes que, tu sais, je veux dire, ce qui remonte est une bonne question.
Là, c'est t'sais. Ça. Puis l'équipe, des fois, c'est un peu abstrait, là, dans la tête des gens, l'équipe. Tu sais, on pense que toi, tu fais tout, là. Tu sais, fait que là, tu dis, je peux avoir 10-15 dossiers qui roulent en même temps. Transaction ou non, là, tu sais, bon. L'équipe, c'est quoi? En dessous, ça ressemble à quoi? Là? Puis les gens font quoi? Est-ce que tu as probablement déjà fait dans ta carrière aussi avant?
Tu as des dossiers de différents types d'envergure. Là. Fait que les plus petits dossiers, on peut être 3 ou 4.
Okay.
Fait que souvent, parce que évidemment, on a des frais en proportion. Là, évidemment, là, ça ne donne à rien de payer le gros tarif pour revoir une entente de confidentialité. De... Là,
la question des taux horaires. Il y a des choses que des plus jeunes peuvent faire que je peux superviser. C'est plus avantageux pour le client.
C'est ça.
C'est normal.
Des coûts.
C'est ça. On donne au client ce qu'il veut. Fait que, moi, souvent, dans la transaction, moi, mon rôle, je vais aller au conseil d'administration, je vais parler au président, au VP affaires juridiques, parce que nous, on est aussi ce qu'on appelle des lawyers. Fait qu'on est des avocats pour avocats. Tu sais, il y a des gens qui ont fait ce que moi, j'ai fait pendant 20 ans, qui sont mes clients aujourd'hui.
Okay.
C'est, ça, c'est gratifiant. Là. La question qui arrive n'est pas niaiseuse. Là. C'est mes clients.
Les gens sophistiqués.
Tu sais, je leur apprends pas. C'est ça qui est. Nous autres, là, t'es pas plus sophistiqué que mes clients.
Okay.
Je leur inventerai, je bullshitterai pas une histoire.
Ouais.
Comme ils savent tout ce qui se passe, puis ils viennent chez toi pour quelque chose. Fait que donc, pour revenir aux équipes, donc quand c'est un plus petit dossier, 3-4, mais dans les plus gros dossiers, on peut être 30. Là, fait que là, dans le fond, tu te mets des lieutenants selon les diverses catégorisations. T'sais. Disons qu'il y a des aspects de droit de la concurrence. On va mettre quelqu'un de droit de la concurrence. Un financement, on va mettre quelqu'un de financement. Fait que des fois, ça peut être...
Selon comme chaque département.
Ou un département au sujet touché par la transaction. T'sais. Puis souvent, quand tu achètes, il faut que tu fasses ce qu'on appelle une vérification diligente. Fait que ça, faut regarder tout ce qu'il y a sur la compagnie. Fait que ça, c'est des gens plus jeunes qui font ça, etc. Fait que les équipes varient.
Fait que toi, tu es comme le général en haut, là, puis tu vas superviser ou tu vas driver chacun des...
Mais tu as déjà été en dessous. Quand tu as commencé.
C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est une job avec un... En tout cas, dans moi, ce que je fais, avec un hockey stick curve d'à peu près 10 ans. Okay. C'est un peu comme un médecin. Tu sais, un médecin, il va faire 3-4 ans à l'école. Puis là, mettons, pour être spécialiste, tu sais, pour être neurochirurgien, ça prend 10 ans, start to finish. Nous, si tu es confiant, c'est à peu près la même affaire. Tu sais, il y a du monde, le degré de confiance peut varier. Là. Tu sais, moi, je suis assez... dans la catégorie assez confiant, fait que assez jeune, tu sais, je prenais beaucoup de... Non, mais tu sais, je voulais manger
les bandes. Ça apparaissait, là.
Ouais, c'est ça. Non, mais je voulais manger les bandes, là, tu sais, ça fait que...
Mais tu sais,
en dedans de... Tu sais, je sais pas c'est quoi en droit du travail, tu sais, plaider un congédiement, tu sais, avec...
Ça dépend des dossiers, les négos, tout ça. Il y a une curve aussi, là, pour reprendre ton expression. Mais c'est clair qu'avant 7-8 ans, tu sais, t'es encore en mode apprentissage.
Oui.
Ça, c'est clair.
Ouais.
Fait que ce 10 ans-là que tu mets, je pense que c'est assez généralisé. En litige, c'est la même affaire. Mm-hmm. Tu n'iras pas plaider à cour d'appel toujours au lendemain. Donc, il y a une évolution. Mais je pense que c'est assez...
C'est ça. Fait que, t'sais, après ça, t'sais, tout le monde n'est pas général après 10 ans. T'sais, le monde a des personnalités différentes aussi. Il y en a qui préfèrent faire un type de choses, puis c'est bien correct.
Ouais.
C'est pas tout le monde qui veut... qui va être front devant un conseil d'administration, puis avoir les discussions difficiles, puis c'est particulier là, comme
travail. Ça dépend travail, du type
là,
de personne, c'est ça.
Être en relation directe.
Avec la haute direction, ça prend...
Nous autres, on a des clients, là, c'est des grosses personnalités, puis c'est des gros égos, puis il faut que tu veuilles, là, mais tu peux... Il y a plein d'étages. Tu peux sortir à n'importe quel étage. Tu peux être quelqu'un qui va superviser des vérifications. Tu peux être quelqu'un qui va rédiger. T'sais, on a des gens qui rédigent des contrats exceptionnels. Là. C'est parfait. Ils sont meilleurs que moi là-dedans. Là. Mais au final, c'est un tout le produit.
C'est l'équipe.
Puis l'équipe, c'est vraiment un sport d'équipe. Là. Tu fais pas ça tout seul. Tu fais pas ça tout seul. J'aurais jamais le temps de faire un dossier tout seul.
Ouais.
Parce que le but, c'est de l'expertise. Si je faisais juste un dossier à la fois, je serais pas un expert.
Non, c'est sûr.
Dans le fond,
tu as besoin de personnes qui t'aident là-dedans.
Ben oui, c'est ça. Ouais.
Ça serait vraiment plus long, probablement aussi, là, enfin, tout seul.
Ouais, puis c'est ça. Un intérêt limité à faire ça aussi, mais tu sais, c'est ça.
Est-ce que tu voudrais peut-être nous donner un exemple, justement, de cas que tu as eu? J'ai en tête, par exemple, Jean Coutu. Qui a été quand même un gros deal. Là. Fait que je ne sais pas si tu voulais nous en parler un petit peu.
Oui, je peux en parler. C'est sûr, il faut toujours que je fasse attention mais parce que c'est des dossiers. Oui. On ne parle pas trop des affaires de nos clients, mais ça, c'est un dossier qui est public. Là, fait que je peux quand même aller sur ce qui est public. Donc, j'ai fait je représentais Metro dans le temps où ils ont acheté Jean Coutu. Donc, Metro avait Brunet. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les pharmacies Brunet. Donc, Metro était à l'époque déjà dans le domaine de la pharmacie. Et Jean Coutu, c'est deux compagnies publiques. Donc, c'est la plus grosse fusion en dans deux compagnies publiques québécoises qui n'ont jamais été faites. Donc, Metro est un épicier avec une petite composante de pharmacie. Puis Jean Coutu, c'était, je pense, 500 pharmacies à l'époque, un gros réseau. Et une compagnie publique aussi, mais une compagnie publique qu'on appelle contrôlée. Donc, okay. Contrôlée, ça veut dire que la famille contrôlait la société. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu veux acheter la société, tu as des votes pour faire passer une transaction oui. comme ça. Puis, pour faire passer les votes, ben, il faut que ceux qui peuvent dire non disent oui, dans le fond, avant de t'essayer. Fait que, okay. Dans le fond, l'idée, c'était d'arrimer l'approche à la société et à la famille. Parce que, dans le fond, tu avais comme une tension entre les deux. Parce que le conseil d'administration de la société, lui, se doit de faire le meilleur pour les actionnaires. Puis, le meilleur, c'est quoi? Généralement, c'est le meilleur prix, c'est de l'argent. Mais après ça, si l'actionnaire de contrôle, donc une famille, dit ben, « je ne vendrai pas à un tel », ben, le deal ne marchera jamais. Ouais. C'est ce qu'on appelle impraticable. Donc, il y a une tension entre trouver le bon prix, trouver l'impraticable. Donc, ça, c'est une transaction qu'on a faite en très, très peu de temps, à peu près en 5 semaines, là, du moment où on s'est entendu sur
un gros dossier comme ça. Là,
ouais. Puis l'annonce, on avait même eu un leak là, à Bernard Drainville 2 jours avant. Ouais. Je m'en souviens encore, c'était le 2 octobre 2017. Fait qu'on avait... donc, dans le fond, il fallait regarder toutes les pharmacies, toutes les affaires, parce que ce genre de business, quand tu l'achètes, tout est important, puis rien n'est important. Right? Tu sais, il y a 600 pharmacies. Fait que s'il y en a une que ça va pas bien,
c'est pas super que ça.
Pas grave, mais là, tu sais, si tu n'en regardes aucune, tu n'as rien regardé. Ouais. Fait que tu as comme une balance quand tu fais un exercice de vérification de ces choses-là. Donc voilà, tu sais, puis ça a été une transaction forte. Puis il a fallu la financer aussi. Le Metro, okay. Metro a fait un financement très complexe pour faire ça. Là, il détenait 20 % d'alimentation couche-tard. Donc il y avait quand même beaucoup de balles en l'air dans la transaction là, qu'on a réussi à amener à bon port. Donc, c'était très compliqué, mais on a réussi en très peu de temps. Puis souvent, c'est drôle, mais plus le deal est gros, plus nos contreparties sont sophistiquées.
Oui.
Mm-hmm. Fait que moins on s'en farge.
Mm. OK.
Tu sais, parce que moi, les avocats des autres cabinets là, avec qui je travaille le plus souvent, on se respecte beaucoup, puis on fait des transactions ensemble tout le temps. Fait que quand c'est collégial... et que c'est sophistiqué, souvent, ben, on finit qu'il n'y a pas d'hystérie. Tu arrives, okay. On sait tout c'est quoi les questions.
Ouais. Avec des gens qui connaissent ça.
Ben oui.
Ça change toute la face. Ouais. C'est comme plaider un dossier contre quelqu'un qui n'est pas représenté. C'est la pire affaire.
Là, c'est t'sais. Ça. Ouais. Fait que c'est d'où le fait qu'une des choses qui est les plus intéressantes dans ce qu'on fait, c'est que moi, mes interlocuteurs sont toujours sophistiqués.
OK.
Ça, ça change
tout. Tu tournes pas autour du pot, là. Ça se fait directement.
Ouais. OK. Il n'y a pas de niaiseux. Tu sais, les affaires de « je l'ai eu » dans la clause qu'il n'y a pas lieu, là, il n'y a pas de ça. Là. Tout le monde comprend tout ce qui se passe. Ouais. Les enjeux.
Tu connais les clauses.
Les enjeux sont clairs. Okay. Ils ressortent clairement. On en discute.
Fait que tu ne te fais pas vraiment avoir aussi dans ces moments-là.
Ben, on ne se fera pas avoir, nous autres. Là. Fait que, tu sais, nous autres, si on les lit, là, on regarde chaque affaire. On sait, tu sais, au point que tu ne t'essayes pas, là,
non, c'est
ce serait bas de gamme. Là, ouais. Fait qu'on a quand même des certains processus. Fait que ça rend le tout assez collégial. Puis le rôle de l'avocat là-dedans est assez intéressant parce que souvent, quand tu as des personnalités entre les hautes directions, etc., souvent, ils vont passer par nous. Tu sais, tu as 3 types de personnes pour faire un deal. Tu as les gens d'affaires, les avocats d'affaires, puis les banquiers.
Mm.
Souvent, okay. Ce qu'on appelle des investment bankers. Fait que les investment bankers et nous, on fait des transactions ensemble tout le temps. T'sais, eux sont maîtres, disons, des chiffres, puis nous, on est maîtres des termes. Fait qu'une négo, souvent, t'sais, on va se faire une salle, l'avocat, l'investment banker, les deux parties, puis on va déterminer ensemble, OK, c'est quoi les enjeux qui remontent au président. Puis là, les présidents vont se parler. T'sais. Fait qu'on est... C'est vraiment agréable de travailler dans cet environnement-là, généralement. C'est sûr que il y a des clients qui sont désagréables. Ça arrive aussi. Hein. Nous, on est des caméléons. Là. Moi, si quelqu'un me dit « envoie le chier », je vais l'envoyer chier. Mm-hmm. Si quelqu'un me dit... je veux dire,
il y a des limites, mais
est-ce qu'on coupe ça?
On est payé pour passer le message qu'on doit passer.
Oui, non, c'est sûr.
Si le client dit là-dessus, on les ferme, c'est non.
Ouais.
Même si je ne suis pas d'accord,
tu vas écouter le client, c'est ça. Ouais.
On est aussi bon que nos instructions. Mm-hmm. Parce qu'au final... T'sais, nous autres, on n'est pas le héros du monde. Là.
Mais tu vas le conseiller quand même. Tu pourras, on s'entend.
Là. Oui, c'est ça.
Je vais le conseiller, la relation de confiance. Plus on a une relation de confiance, plus ils nous laissent aller.
Plus c'est facile.
Parce qu'ils savent que c'est nous qui faisons ça le plus souvent. Ouais. Cela dit, ils ont toujours des bonnes perspectives, les clients, puis des bons points de vue. Fait que nous, on fait le deal pour eux. Hein. Donc, nous, on va les voir. On dit, si on essaye ça, ça se peut que ce soit un deal breaker. Ça se peut que ton projet ne marche pas. Est-ce que tu veux pas? Puis, on en parle. Après ça, c'est leur décision. Il faut juste qu'on leur présente ça pour qu'eux autres prennent la bonne décision.
Mais de là où vient ton rôle de conseiller, justement. Fait que si t'écoutes, s'ils te prennent en considération... En fait, il faut qu'ils te prennent en considération, là, mais c'est sûr que le choix final revient plus à eux.
Oui.
Exact, mais vous êtes des conseillers d'affaires aussi. Dans le cadre de la transaction, tu sais, ce que je comprends, Emmanuel, puis corrige-moi, c'est que vous conseillez vos clients, vous devenez des conseillers d'affaires. De façon générale, ça va au-delà du juridique, là, tant qu'à moi, là, dans ta job.
Ah, 100%. T'sais, nous autres, on connaît les chiffres. Là. On sait comment lire des états financiers, sait comment valoriser des compagnies. Puis le plus important pour avoir du succès dans ce qu'on fait puis donner le bon conseil, c'est de connaître la business du client.
C'est ça.
Okay. Ça requiert un investissement qui n'est pas... Il faut que tu lises sur la compagnie, il faut que tu lises sur le marché. T'sais. Parce que nous, tu sais, à New York, là, tu peux avoir un avocat qui est spécialiste des prêts à des gouvernements d'Amérique du Sud. T'sais, tu peux avoir des hyper spécialistes. Là, au Québec, il y a des certaines spécialités, mais il y a une limite. T'sais, tu ne peux pas être un spécialiste des M&A de foresterie au Québec.
Okay.
On fait, nous autres, plusieurs industries. T'sais, moi, je fais de la tech, je peux faire du food, je peux faire... On fait plusieurs industries, fait qu'il faut rapidement comprendre l'industrie du client. Puis ça vient que le temps, généralement, on bâtit une relation, on leur parle, ils nous parlent de leurs enjeux, on lit là-dessus. Mais ça, si tu ne t'intéresses pas à ça, tu manques le trois quarts du fun. Parce que c'est ça qui est le fun.
C'est
comprendre la business puis donner le bon conseil.
De fait, Manu, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu. On en a traité tantôt du développement des affaires, puis mes clients, j'ai des clients en Europe, tout ça, puis ta plus grande gratification, c'est quand tu réussis à aller chercher le mandat. Mais comment tu fais ça? T'sais, qu'est-ce que tu fais pour aller chercher des mandats? Es-tu limité au territoire du Québec? Es-tu limité à Québec? Parce que moi, dans mon esprit, quand j'étais à l'université, là, les gens en droit des affaires, ou peu importe, là, ils pratiquaient à Québec, ben, c'était chercher des deals ici, à Québec.
Ouais.
Fait que, je la connais, la réponse, là, mais... Je te pose la question parce que c'est vraiment particulier. Toi, t'es partout, là. C'est pas, t'es loin d'être... Tu demeures à Québec, mais c'est probablement la seule chose que tu fais. T'as des deals à Québec, par contre, mais pas strictement. J'aimerais que tu nous expliques comment ça fonctionne.
C'est vraiment, en fait, un aspect qui pourrait intéresser beaucoup d'étudiants. Ouais. Je pense le fait que tu puisses voyager aussi un petit peu en même temps.
Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, on est membre du barreau. Right?
Oui.
Fait que, tu sais, techniquement, tu pratiques le droit au Québec. En principe. Okay. Il y a deux angles pour aller chercher des clients, tu sais, dans le fond, c'est plate, là, mais c'est un hustle. Des clients, tu sais, t'as des idées, tu connais des gens, tu bâtis ton réseau, ça, c'est le basic.
Base, oui.
Quand tu es au Québec, souvent, c'est vraiment, quelqu'un connaît quelqu'un. Tu sais, j'entends parler, moi, souvent, je lunch avec les banquiers, je lunch avec le monde, je sais qu'il y a un deal qui s'en vient dans telle compagnie, je regarde c'est quoi mes entrées. Puis souvent, j'ai un président que j'ai déjà représenté. J'y demande de me présenter. Ça, souvent, c'est la façon facile de
rentrer. Du référencement. Tu as fait un autre deal, puis tu sais que ce président-là, il connaît le président du deal qui s'en vient. Si tu vois, il dit, connecte-moi.
C'est ça. S'ils ne sont pas déjà clients, parce que tu sais qu'ils ont eu. Ça, c'est une façon classique. Là, j'imagine que je n'ai rien inventé. Là. Cela dit, nous, on a fusionné avec Norton Rose, principalement pour accompagner nos clients d'ici dans leurs transactions à l'extérieur. Fait qu'on a plusieurs clients du Québec qui font des acquisitions aux États-Unis, en Australie, en France. Ça, ce qu'on a comme produit, parce qu'on l'a développé, on ne fait que ça, c'est qu'on fait des transactions internationales pour des gens. Fait qu'il y a des transactions pour les deux buckets, là, c'est des étrangers qui viennent au Québec, puis des gens du Québec qui vont à l'étranger. Oui. Okay? Les gens du Québec qui vont à l'étranger, ça, ce qu'on fait, c'est que nous, en fait, là, ironiquement, autant qu'ici, je dirais que je suis le roi des avocats là, à haut prix de ta-ta-ta, comparativement aux avocats ailleurs dans le monde, je suis le roi du bas prix. Moi, je suis 30% moins cher qu'un avocat à Londres. Je suis 40% moins cher qu'un avocat à New York.
Ça peut être intéressant. Là.
Fait que si tu me demandes de coordonner, de négocier, etc. pour toi, ben, je suis capable de vendre un produit où je ne suis pas un dédoublement. Puis j'ai l'expertise. Des acquisitions de compagnies américaines, j'en fais 12 par année.
Okay.
Mais moi, j'y connais les règles. Sauf que je me prends toujours un avocat américain avec moi pour ce que je connais.
Pour te confirmer, oui, c'est ça.
Mais nos clients, ils adorent ça parce qu'ils nous parlent à nous, en français. J'ai fait toute leur deal. Fait que je sais ce qu'ils aiment. Je le connais, mon client. Fait que si lui, j'ai fait 3 de ses acquisitions au Canada, puis là, j'en fais une aux États-Unis, je le connais, il m'aime, j'y parle, on parle en français, on prend pas 15 détours pour se dire ce qu'on pense. Puis en plus, je suis moins cher. Fait qu'eux, ils aiment beaucoup ça parce que nous, au lieu de dealer avec quelqu'un dans le sud du Texas puis qui n'ont aucune idée c'est quoi la règle, moi, je vais leur résumer, je vais l'appeler, je vais dire, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est un vrai enjeu, ça, c'est pas un vrai enjeu. Fait que ça...
Puis lui, il va l'appliquer parce que la transaction se fait, par exemple, au Texas.
Ouais.
Ben, ton correspondant, appelons-le comme ça, lui, ouais. va appliquer... ou va pouvoir te dire oui, ça, oui, on peut le faire ou non, on ne peut pas le faire en fonction du droit applicable. Là.
C'est ça.
Mais tu as déjà tout mâché la patente. Ben oui, là, c'est ça l'affaire.
C'est ça que je fais dans la vie. Fait que, moi, fait que là, dans le fond, le client,
ça le rassure.
En guillemets, il ne se fait pas chier avec ça non plus.
C'est
t'sais. Ça. Tu sais, c'est con, là, mais les fuseaux horaires. On fait un deal à Hong Kong. Là.
Ah, ça paraît. Là,
le ouais. client, c'est à moi qui parle, puis c'est ouais, moi c'est qui gère le gars d'Hong Kong.
C'est
fait
ça.
Que dans le fond, pour lui, il m'appelle quand tu veux. Ouais. Mais non, mais c'est un autre.
Il n'y a pas à gérer le décalage.
Nous autres, c'est du service à la clientèle à base. Je te parlais de vente. Moi, j'ai une job. De service à la clientèle.
Oui.
Il faut que mon client il sente qu'il y a une plus-value chez nous puis qu'il soit heureux de faire affaire avec nous autres. Fait que, ça, c'est une des choses. Fait que nous autres, on fait beaucoup de... un de nos axes internationaux, c'est qu'on fait des transactions à l'étranger pour des grosses multinationales ou gros clients du Québec.
C'est ça, comme tu as dit, t'es souvent ou toujours accompagné d'un avocat de...
Ben, il faut
de la place.
Ouais, c'est ça, parce
il ne peut pas pratiquer au Texas.
Ouais, c'est
moi, je ne peux pas te parler du droit de l'environnement au Texas. Là. C'est ça. Mais souvent, dans ce qu'on fait, le M&A, c'est le droit contractuel, finalement. C'est un contrat. C'est le prix du bon, l'ajustement. Puis il y a des standards internationaux, sans entrer dans les détails, là, mais la portion acquisition, les points de tension... corporatifs sont les mêmes partout dans le monde, généralement.
Okay.
Puis, il y a quelques petites nuances. Là, en France, ils font ça de telle façon, machin. Mais nous, on les connaît. Ça fait qu'après ça, on est capable de les régler. Puis après ça, le droit de l'emploi, l'environnement, les régimes de pension, les règlements spécifiques de non-concurrence, ça, c'est sûr qu'on va aller voir un avocat là-bas. Fait que ça, c'est un des pans. Puis l'autre pan, c'est que, comme je te disais au début, tu as toujours deux parties à un dossier. Fait que tu as un acheteur et un vendeur, généralement, dans ce que moi, je fais. Bien, souvent, l'acheteur, c'est un étranger qui achète chez
ici.
Nous, ici. Fait que nous, ce qu'on fait comme cabinet, c'est qu'on essaie aussi de savoir qui va acheter les compagnies ici.
C'est ça.
Puis là, ton carré de sable, c'est la planète au complet. Là. Tu sais pas là, quand est-ce qu'un Norvégien va débarquer pour acheter une affaire.
Certain.
Fait que là, comment tu développes ces réseaux-là. Puis ça, évidemment, on fait ça en équipe. Là. On fait ça en cabinet. Là. Je m'en vais pas, je suis pas Tintin. Là. Je m'en vais pas tout seul à trouver des dossiers.
Tu peux y ressembler un peu.
Ouais, avec la
hauteur. Tu fais pas du porte-à-porte.
Non, ben on peut. Ben, on peut, tu sais.
Mais ça, c'est intéressant parce que là, excuse, je veux pas. Mais là, la planète est ton terrain de jeu à partir de ce moment-là.
Ben, tu sais.
Là, faut que tu connaisses ce qui s'en vient. Comment tu fais ça?
Ben, c'est ça. Fait que tu sais, tu as des centres géographiques qui sont clairs. Tu sais, évidemment, là, tu sais. Les États-Unis, Londres, Paris. Paris, c'est facile, parce qu'il y a un French Connection avec nous autres.
Oui,
il y a beaucoup de deals de Français ici, Londres. Puis là, après ça, tu as les fonds souverains, les Émirats arabes, puis la Chine. T'sais, en gros, là, tu as ces genres de créneaux-là là, qui sont, que moi, j'identifie comme étant « most likely » de nous donner de la business.
Oui.
Fait que là, il faut que tu te fasses une stratégie d'aller les voir. Moi, j'ai toujours aimé voyager. Tu sais, quand j'étais à l'université, je faisais du backpacking. Tu sais, je travaillais au Sport Expert pendant l'année pour me payer un backpacking tout l'été. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé voyager. Tu sais, j'aime vraiment ça, là, tu sais, prendre l'avion, me promener. Fait que, tu sais, est-ce que j'aurais plus de, entre guillemets, de succès financier si je faisais juste le Québec et New York? Peut-être. Là, tu sais, mais moi, j'aime ça.
Mais ça t'apporte
j'aime
ce côté-là, c'est ça.
J'aime
c'est
ça voir le monde.
Des jeux, oui.
Fait que tu vois, tu sais, il y a trois semaines, j'étais allé à Dubaï voir des fonds souverains, à Abu Dhabi, tout ça. Tu sais, j'aime ça faire ça.
Oui.
J'aime ça aller là, avoir une stratégie puis bâtir des networks. Puis un réseau, dans le fond, comment ça marche, c'est que tu commences à une place puis après ça, tu essaies de créer d'autres débouchés avec ton réseau. Fait que moi, j'ai un réseau à Londres, un réseau à Paris. Tu sais, Londres, je peux aller là 6, 7, 8 fois dans l'année. Paris, même affaire. J'ai un réseau, là, tu sais, là, je développe mon réseau dans le Middle East. Bien, j'aime ça faire ça. Tu sais, comme tu vois, là, tu sais, je m'en vais à Riyad, en Arabie Saoudite, en janvier. J'ai été invité par un fonds souverain. Je m'en vais là, les rencontrer. Eux veulent faire des investissements au Canada. Bon, bien, parfait. Tu sais, tu vas là, tu regardes ça. Je m'en vais en Afrique du Sud pour. Il y a une conférence, je fais beaucoup de compagnies minières. Il y a une grosse conférence sur les compagnies minières en Afrique, qu'on appelle Indaba. Fait que là, je vais à Indaba en Afrique du Sud. Moi, j'aime ça.
T'sais, je veux dire, c'est pas, super intéressant.
Je me promène, puis je trouve ça cool. Puis même si j'avais moins de dossiers, tu regarderais le ratio énergie, tout ça, mais moi, c'est ma vie. T'sais, tu vis juste une fois. Puis mon but, c'est pas juste une colonne de chiffres. C'est de faire ce que moi, j'ai toujours voulu faire.
Ben puis
le droit international, tu sais, que je te disais, j'ai fait une maîtrise, j'ai toujours voulu faire ça. La réalité, c'est que j'en fais énormément.
Ah, c'est
je ne fais que ça.
Bien, oui.
Je peux te parler du droit de l'emploi en France, la loi Hamon, ouais. Le CIE. C'est, culturellement, c'est super intéressant et super stimulant.
Tu en apprends, c'est ça, constamment. Ouais. Je pense que ça peut être un aspect vraiment intéressant.
Oui, c'est ça. T'sais, les villes en Australie, les types de règles, là, ci, là, ça. Fait que, j'ai des réflexes un peu partout dans le monde. Puis j'estime que pour les clients d'ici qui veulent faire affaire à l'international, d'avoir des gens qui ont cette sensibilité-là, ben, t'es pas deer in a headlight. Là. Si quelqu'un m'appelle, peut faire un deal au UK, ben, c'est pas de problème. Je sais comment faire. T'sais. Fait que c'est pas, c'est comme porte d'entrée. Au lieu d'appeler 1-800, ils connaissent pas d'avocat là-bas. Comment je m'appelle? C'est quelqu'un qui les connaît pas. Puis t'es le 22e client le plus important pour eux. Tandis que moi, mon client ici, il est important pour moi. Puis il sait. Fait que moi, je vais le traiter comme un client important. Mais un client d'ici qui veut faire affaire à Paris, puis c'est sa seule transaction en France. Puis l'avocat français, il est le 22e dans la liste.
Il est 22e. Ouais. Le fait que Norton Rose ait une plateforme internationale, est-ce que ça t'aide dans ta pratique? Tu sais, mettons, tu fais le deal, il y a un deal à Paris, là.
Ouais.
Fais-tu nécessairement affaire avec le cabinet?
Généralement, oui. Là, des fois, les clients, ils ont des préférences. Tu sais, des fois, il y a des méga clients là, qui ont déjà comme je veux que la personne, ce soit lui. Mais sinon, par défaut, généralement, on va prendre notre cabinet, oui. Oui, ça nous aide, c'est sûr, parce que on a un footprint
là-bas. Tu peux le vendre.
Ben oui, puis c'est seamless, tu sais, parce que dans le fond, tu parles à moi, mais tu parles à un seul cabinet. T'as pas de dédoublement, t'as un problème de facture, c'est moi qui t'appelle. Tu sais, il n'y a pas d'enjeu là. Fait que c'est sûr que ça nous aide parce qu'on est toujours plus connecté aussi sur le marché local. Je connais quelqu'un qui connaît les gens. Tu sais.
C'est ça.
Ouais.
Puis c'est à partir de quand dans ta carrière que tu as commencé justement à comme, te rendre dans différents pays pour ta pratique?
Peut-être à la 4e année, à un moment donné, j'avais une enquête. J'avais été à Paris. Tu sais, au début,
T'étais-tu accompagné au début sur le moment?
Oui, j'étais accompagné. Je pense que la première fois que j'ai fait un... Ben, tu sais, c'est Toronto, des affaires de
même. Oui, oui.
Là, mais ça, c'est un peu de la merde, là. mais...
ça dépend pour qui, là.
OK, ben, c'est cool. Oui, hein. La rue Bloor. mais non, c'est ça. Tu sais, mettons que la première fois que j'avais été à Paris, je pense à 4 ans. Puis tu vois, c'est là que j'ai commencé à bâtir un réseau.
OK.
Fait que c'est ça, tu sais, à peu près à ces années-là. Mais ça, d'ailleurs, ça amène peut-être à... Tu sais, je n'ai pas grand conseil à donner au monde, là, mais... Tu sais, mettons, je te parle de ma pratique aujourd'hui, je fais plein de voyages, c'est cool, je parle à des présidents. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même faire preuve de patience dans ces jobs-là. Ben oui. Tu sais, tes premières années, veux pas, là, ce que moi je fais dans la vie, le droit des affaires, ça n'a aucune commune mesure avec ce que tu as appris à l'école. Tu sais, si tu avais des parents qui ont une entreprise ou autrement, tu sais, peut-être que tu as déjà été exposé à certaines choses. Mais la réalité, c'est que le droit des affaires, c'est comme être en affaires. Fait que si tu n'as personne dans ta famille ou tu ne t'es pas fait parler de ces choses-là, quand tu commences, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Puis ça prend quelques années de comprendre ce que tu fais.
Ouais.
Puis encore une couple d'années de comprendre à quel point c'est gratifiant ce que tu fais. C'est comme c'est vraiment le ratio entre gratifiant puis cool à la fin puis pas au début. Il est quand même important. En droit des affaires, il faut que tu acceptes. T'sais, moi, je me souviens, je suis pas capable, j'avais des bonnes notes, puis fais-moi un tableau, résumé de quoi, là, pendant un an et demi. Là, c'est ça que c'est. T'apprends. Puis il faut que tu sois humble de dire que tu sais pas, parce que tu comprends pas ce que tu es en train de faire. Là, si on est dans une équipe de 30 personnes, puis tu as une petite tâche, on va te l'expliquer, on va essayer de la valoriser. Mais la réalité, c'est que la tâche, elle est cléricale, au début un petit peu, mais pour contrebalancer, personne n'a jamais appris aux étudiants c'est quoi.
Qu'est-ce
non, c'est ça, il faut que tu l'apprennes. Il est nécessaire, cette tâche-là, pour éventuellement devenir ce que tu disais tantôt, le général en haut là, qui donne. Si tu sais, il faut que tu l'aies fait.
Ben oui, c'est ça. C'est comme, je sais pas, là, mettons que tu es le président d'Aldo. C'est cool d'être le président d'Aldo, là, mais tu sais, peut-être qu'il a été stagiaire puis il a fait SML. Après ça, c'est comme, il faut que tu acceptes.
De commencer,
tu vas commencer en bas de l'échelon, puis tu vas...
Ouais, puis tu sais, c'est quand même, c'est ça, c'est que les tâches sont, au début, sont... Tu sais, oui, tu peux avoir des rôles intéressants, mais souvent, les étudiants, c'est toujours comme, OK, ben je peux-tu parler au
président?
Oui, mais tu sais, si tu veux faire la méga transaction, on peut pas arriver à 22 non plus. Là. Eux autres, ils veulent des interactions one-on-one. Ils n'aiment pas ça être 14, là, tu sais, dans une salle. Fait que tu sais, s'il y avait juste une chose à dire sur les fusions-acquisitions, c'est qu'il faut comprendre à quel point on n'a aucune idée c'est quoi quand on commence.
OK.
Accepter d'être patient.
Puis de travailler. La patience. Tu sais, je veux dire, je t'écoute, puis ça a l'air cool, puis tout ça, mais moi, je le sais, tu travailles fort aussi, là, tu sais, je veux dire, quand t'es à Paris, t'es pas en train de te promener sur les Champs-Élysées, là, tu sais. mais tu sais, je connais ton horaire, là, il y a quand même du travail qui est...
Il y a du travail, mais je vais te sortir. Mon grand-père m'avait toujours dit, j'avais toujours aimé sa phrase. Lui était chirurgien cardiaque, puis il disait toujours il n'y a aucune différence pour moi entre le vendredi soir et le lundi matin. Puis la réalité, c'est que c'est vrai.
Parce qu'il aime
ça. Moi, j'ai un client qui m'appelle un samedi, là, puis je suis content. Je te jure, là, j'ai pas de. Tu sais, est-ce que deux fois par année, je veux pitcher mon ordi par la fenêtre?
Moi,
Peut-être. Mais généralement, tu sais, je suis très heureux de faire ce que je fais.
Mais ça, c'est parce que tu aimes ce que tu fais.
Tout ce que je fais maintenant de mes journées, c'est que je parle à des gens au téléphone, puis c'est cool, puis je les aide dans leur projet. Là. C'est très, très, très agréable faire ça. Puis ils t'appellent, puis hey, je peux te prendre 5 minutes, je peux te poser une question. Je vais le faire n'importe quand. Puis nous autres, le monde pense qu'on facture à l'heure. T'sais, le meter, là, il roule pas, le meter. Mm-hmm. Là, il me prend à part d'une soirée, il te pose 2 questions. Je suis content de faire ça. Okay. Tous les jours, là. Ça fait que je suis quand même raisonnablement... Puis je t'aurais pas dit ça dans mes premières 5 années, là. Mais il faut accepter de passer au travers d'un certain processus pour faire ça. Mais après ça, moi, je travaille fort, là, j'en sais, là, mais tu sais...
Je comprends.
J'ai pas d'enjeu avec ça, là.
Es-tu... sens-tu que parce que tu travailles du bureau de Québec, sans rentrer dans le détail, là, mais que tu es défavorisé, par exemple, financièrement par rapport à un de tes collègues de Montréal. Dire ça comme ça. Tu comprends-tu?
Ben non. La réponse est non.
La réponse est non. Mais encore une fois, on rit parce qu'on effectivement, on le sait, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est abstrait pour les plus jeunes ou les étudiants. Ils se disent, ben, tu sais, si tu travailles à Québec, manifestement, tu vas moins bien gagner ta vie que si tu travailles à Montréal, par exemple, au sein du même bureau, là, chez Norton Rose. Tu as quoi à nous dire par rapport à ça, sans rentrer dans
les chiffres? Ce que j'ai à dire, c'est un, non à ta question précise. Mmh. Deux, c'est des emplois dans lesquels... Tu sais, moi, on fait des revenus que je ne savais même pas que ça existait. Là, tu sais, n'importe quel avocat en pratique privée gagne très, très, très bien sa vie.
Bon. Oui.
Partant de là, si après ça, ta paye, c'est un sujet dans tes journées, t'as un problème. T'sais, dans le fond, là, nous autres, là, on n'a aucun problème financier. Puis si tu réussis à avoir des problèmes financiers avec les payes qu'on fait, c'est toi qui as un problème. Puis, fait que moi, je pars de là. Je ne fais pas ça pour l'argent. Oui, c'est le fun là, d'en faire, mais je dépense moins que je fais. Puis c'est tout. Là, fait que dans le fond, moi, j'ai pas de... Il ne faut vraiment pas faire ça pour l'argent. Là. L'argent, il est là anyway. Là, puis ça, on est tellement privilégié dans la société. Là. Au contraire, là, tu sais, là, on donne beaucoup. On a des rôles privilégiés là-dedans. Fait que, moi, c'est pas vraiment un sujet qui m'allume tant que ça parce que tout va bien pour tout le monde. Là. Même la personne la moins bien payée chez nous. Mm-hmm. Là, si elle se plaint, honnêtement. Là, je veux dire, on peut aller se promener en ville.
Il y a pire.
Il y a beaucoup pire. C'est un problème. Oui. C'est un problème. Okay. Puis, on est comme une industrie où les salaires ont beaucoup augmenté en plus dans les dernières années. Mm. Ça, faut l'apprécier, en fait. En fait, il faut au quotidien se dire à quel point on est chanceux sur cet aspect-là. Puis ce qui vient avec le rôle social aussi, là, des cabinets, là, on donne beaucoup. Tu vois souvent beaucoup des avocats de grands bureaux dans des CA de cause qui font des dons, machin, parce qu'on en est. T'sais, on en est conscient là, à quel point on est chanceux. Là. Parce qu'on est une entreprise au final.
Puis mettons, niveau nombre d'heures, genre quand tu commences, ça ressemble à quoi environ? C'est sûr que tu vas sûrement plus travailler qu'un avocat.
Ben, t'sais, nous autres, on a la notion d'heure facturable, non facturable, right? Fait que quand tu commences, disons que, je ne sais pas, 1700, 1800 heures facturables souvent. Mm-hmm. Mais ça, je pense que c'est averagé sur 48 semaines, ça doit donner 36. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas juste des heures facturables.
Non, c'est
sûr. En ce moment, on fait un podcast, c'est non facturable. Je veux dire, il n'y a pas de... Tu travailles beaucoup, puis après ça, c'est au choix du rôtisseur, pour utiliser l'expression de Saint-Hubert. Là. C'est que dans le fond, il y a du monde que c'est dans leur ADN. Il y a du monde là, qui en font 2400, ils carburent à ça. Il y a du monde qui en font 1500, puis ils font du jogging. Puis c'est toutes les personnalités se rencontrent dans un cabinet, puis il n'y a pas de moule prédéterminé. C'est sûr que si tu aspires à vendre une expertise, parce que c'est bien cool les dossiers dont je te parle, mais Si tu aspires à vendre une expertise, il faut quand même que tu y aies mis du tien.
Ah oui, c'est ça. Là.
Mais après ça, il y a des heures intelligentes, des heures moins intelligentes. Tu sais, je veux dire, faire un tableau, mm-hmm. c'est pas à la même heure que faire un contrat, mettons, non, en apprentissage. Bon. Mais des fois, c'est un sport d'équipe, fait que des fois, il faut que tu le fasses, le tableau. Ouais. Tu sais, moi, des fois, j'en fais des petits résumés. Là, j'ai lu un affaire. Tu sais, fait que faut que tu acceptes, puis il ne faut pas les compter. Tu sais, c'est un peu comme l'argent. Tu sais, tu fais ta job, tu t'appliques, puis le reste va venir.
Ça vient avec aussi. Moi, je le dis souvent dans le cadre de la course aux étudiants. Tu sais, si tu étais médecin, chirurgien, tu sais, je veux dire, tu te demandes pas si tu vas faire des gardes, tu te demandes pas si tu vas opérer la nuit. Ouais, c'est ça intrinsèque à la job.
Ouais.
Fait que c'est la même chose là, tout au long de ta carrière comme avocat en pratique privée. Tu sais, si tu t'attends à ce que ce soit linéaire et qu'il n'y ait pas de up and down, ben, quand le client t'appelle, moi, je suis en droit du travail, là, ben, quand il m'appelle.
Puis tu vas répondre.
Si c'est vendredi, c'est vendredi.
Mm-hmm.
L'été, par définition, c'est plus tranquille. Moi, dans ma pratique.
Oui.
L'automne, là, la période actuelle, c'est fou.
Mm-hmm.
Printemps, c'est fou. Tu sais, c'est les deux. Mais c'est comme ça. Si je l'accepte pas... Mais tu sais quoi? Si je travaillais à mon compte, dans mon sous-sol, okay, j'aurais exactement les mêmes contraintes. Parce que si je suis à court le lundi matin, puis que je travaille chez Norton Rose, je suis associé chez Norton Rose ou je suis associé à mon compte, ben je vais travailler le dimanche après-midi pour me préparer.
Pour te préparer, c'est certain. En tant qu'avocat, tu n'as pas le choix.
Moi, je ne pense pas que ça soit accolé à ou un stigmate des grands bureaux ou de la pratique. Ça vient avec le fait d'exercer en pratique privée.
Ouais.
À partir du moment où tu fais de la pratique, puis tu es en pratique privée, ça vient avec des obligations, certaines contraintes que tu dois accepter dès le départ. Puis moi, c'est ce que je dis aux jeunes, quand vous appliquez ou que vous décidez de faire la course, posez-vous la question si la pratique privée vous intéresse, avec ses avantages et ses inconvénients.
Puis tu sais, il y a aussi, c'est une question d'allocation de ton énergie. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille fort, mais tu sais, j'ai 3 enfants, je coach le hockey de mon fils lundi soir, le samedi, je voyage, j'ai des amis, tu sais, je m'occupe de ma famille, mes enfants, je les amène, puis je vais les prendre à l'école.
Puis tu sais, c'est ça, semaines, on sait bien, puis tu sais, sa femme est en pratique privée, aussi, moi, je suis en pratique privée, j'ai 3 enfants aussi en bas âge, j'ai 48 ans, ma blonde est chez McCarthy Tétrault pour pas les nommer. À court, elle est partie courir ce matin avant d'aller à la job. Je veux dire, on n'a pas de l'air à des personnes épuisées. C'est dans le sens où on s'organise. Ouais. Ça vient partie de ta vie. Puis j'ai pas l'impression, honnêtement, d'avoir une vie plus de travailler plus qu'un avocat à l'industrie de l'Alliance, là, honnêtement, là, qui ont 3 enfants. Là, où c'est la même affaire.
Mais c'est ça dépend de ce que tu veux, là, si tu veux travailler, mettons,
pour la fonction. C'est vraiment les impératifs de la pratique. Non, c'est ça. Je veux dire, t'es tributaire de ce que tes clients te demandent, puis quand ils te le demandent. Ben, là, à partir du moment où tu acceptes ça, il n'y en a pas de problème.
Ouais, non, c'est sûr.
Puis, nous autres, c'est une pratique transactionnelle. Fait que, nous autres... T'sais, même eux autres, ils ont des horaires de cours. Tu sais que tu vas aller en cours tel jour. Moi, c'est pas l'horaire, là, on l'invente.
Je sais pas.
On l'invente. Mm-hmm. Fait que dans le fond, si le client veut faire ça d'ici le 31 décembre, avant son prochain résultat trimestriel, on se fait imposer, entre guillemets, des contraintes de temps.
Ouais.
Puis on y arrive. Mais en contrepartie de ça, on a un thrill. T'as un buzz à faire ça. Fait que t'as comme une énergie. C'est confidentiel encore. On y va, let's go. On réussit quelque chose ensemble. Fait que tu peux pas avoir ça si t'as pas l'autre bord, là, où t'as une certaine pression de temps. Mais tout ça pour dire qu'on réussit nos vies de famille. Je veux dire, toi, ton couple, le mien, je veux dire, tout va bien. Je veux dire, on n'est pas... on n'est vraiment pas à plaindre sur tous les autres aspects de la vie. Je pense que c'est juste que... tu connais l'expression, là, if you want to get something done, ask the busiest person in the room.
Mm-hmm.
C'est ça. Ça, c'est vrai.
Je veux dire, moi, si tu me demandes d'aller chercher du lait puis de l'amener chez vous à 14h, moi, je vais être capable. Fait que demande aux gens plus occupés de te le faire, puis ils vont te le livrer. Si tu es oisif, ça va être compliqué de livrer.
Non, c'est certain.
Ouais.
Donc, Emmanuel, prenant en considération que tu n'es pas rentré chez Norton par la course au stage ou par la manière convenable, si je peux dire ça, je ne sais pas si Jean-Sébastien, justement, tu voulais peut-être nous expliquer ou nous... démystifier la manière dont tu peux rentrer chez Norton Rose en étant étudiant?
Bien, moi, tu sais, on en parlait tantôt avant le podcast, la question des notes. Qu'est-ce qu'on regarde quand on recrute dans le cadre de la course? Je fais beaucoup de conférences à l'université depuis plusieurs années là-dessus. Moi, le message que je donne année après année, puis c'est moi qui regarde les CV, OK, quand on reçoit dans le cadre de la course, il n'y a pas de note minimum, OK? Moi, je ne fais pas de tri en fond. Par exemple, là, en bas de 3,4 de moyenne, je ne regarde pas les CV. C'est pas vrai, ça. La façon dont je regarde ça, c'est que ça dépend de qui applique. C'est sûr que si j'ai 50 personnes sur 100 qui ont 4 de moyenne, ben, c'est clair que je vais les regarder puis ils vont faire partie de l'équation. Mais ça s'évalue en fonction de la masse, en fonction de l'ensemble là, des CV qu'on a. Mais à retenir, là, puis ça, c'est ça peut pas être plus honnête que ça. Il n'y a pas de note minimum pour avoir accès à une entrevue dans le cadre de la course au stage chez Norton Rose. Ça, c'est certain. Les gens, et ce que je remarque depuis plusieurs années, Rose-Florence, c'est que les gens se braquent ou ont peur d'appliquer, oui. Ils se disqualifient eux-mêmes.
On l'entend quand même.
Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne, c'est inaccessible, ils travaillent 2500 heures par année, ça couche au bureau. Regarde, on l'a vu là, avec Emmanuel, puis c'est quelqu'un qui réussit très, très bien. Le pire qui peut... Moi, ce que je dis, c'est appliquer. Envoyez votre CV dans le cadre de la course. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas ou que vous ne soyez pas convoqué à une entrevue. Au mieux, tu auras compris comment faire ton CV. Au mieux, tu auras eu accès à une première entrevue. Ça ne sera pas perdu. Mais je rencontre beaucoup de gens qui se sont auto-éliminés au fil du temps puis qui auraient dû participer. Puis là... je prône pour ma paroisse chez Norton, mais si vous ne voulez pas appliquer chez Norton, appliquez ailleurs, mais faites la course. Moi, ce que je dis, c'est de façon générale, pas juste chez nous, faites la course. Le pire qui pourra arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est un faible pourcentage de jeunes ou d'étudiants qui ont un stage dans le cadre de la course, mais ce n'est pas la seule voie. Emmanuel en est un bon exemple. Il n'a pas fait la course. J'ai pas fait la course non plus, moi, pour à l'époque où j'étais à l'université. Ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. Mais j'ai un peu un parcours un peu semblable. Moi, je travaillais pas chez Sport Expert, je travaillais chez André Lalonde-Sport à l'époque. Ça a été mes deux jobs.
Mais deux sportifs, deux vendeurs.
mais tu sais, faut pas se braquer, faut pas avoir peur. Puis en général, la course, appliquez, puis vous allez sortir de là. À mon avis, positif. Les gens ont des stigmates là-dessus puis ont des préjugés qu'ils ne devraient pas avoir, je pense.
Honnêtement, merci Jean-Sébastien de démystifier ça un petit peu parce que ça peut être mêlant. Donc, merci aussi Emmanuel Rondin d'avoir été avec
nous. Merci Manu, mais
Donc, je souhaite... bonne fin de journée. Puis
merci beaucoup. Merci Marc-Antoine. Vous ne le voyez pas, mais lui,
il est derrière. Il est backstage. Il est là depuis le début.
Merci, Rose-Florence. Super de fun. Merci.
Merci.